Chapitre 1 à 3 Vision et vocation. Nous avons considéré dans le chapitre précédent le cadre et l'époque où vivait Ézéchiel. Voyons maintenant comment il est devenu prophète. Comme pour tant d'autres, il a fallu un contact personnel direct avec le Seigneur pour qu'il fût appelé à l'œuvre à laquelle Dieu le destinait. Avant d'écrire aux sept assemblées et de nous faire part des choses qui doivent arriver après celles-ci, Jean, à Patmos, voit le Seigneur comme juge. L'année de la mort du roi Ozias, le jeune Ésaïe entre dans le temple et voit le Seigneur sur son trône haut et élevé. Moïse a la vision du buisson ardent. Pendant la nuit, Samuel entend la voix de l'Éternel. Paul est terrassé au chemin de Damas. Et Pierre, devant la pêche miraculeuse, se jette aux pieds de Jésus en disant « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Dans l'appel d'Ézéchiel, nous distinguons trois stades successifs. Au chapitre 1, il voit la gloire de l'Éternel. Au chapitre 2, il entend sa voix. Au chapitre 3, il est nourri de sa parole. Alors seulement le Seigneur peut dire « Va » et l'établir comme sentinelle pour la maison d'Israël. Chapitre 1 Le voir. Quelle fut la vision d'Ézéchiel? C'était là l'aspect de la ressemblance de la gloire de l'Éternel. Vision magnifique, étrange, et qu'il est bien difficile de décrire. Cela est voulu sans doute. Car alors la gloire de Dieu n'était pas manifestée comme elle le sera dans la personne de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. L'ensemble représente approximativement un chariot fantastique dont les roues sont sur la terre. Au-dessus d'elle se tiennent les quatre êtres animés dont les ailes s'élèvent vers l'étendue. Celles-ci, comme l'apparence d'un cristal terrible étendu sur leur tête, séparent ce qui est au-dessous de ce qui est au-dessus. Là-haut, le prophète entrevoit la ressemblance d'un trône, où est assis un homme qui ne peut être décrit autrement que comme l'aspect du feu et une splendeur tout autour. C'est ce que l'on a appelé le char du gouvernement de Dieu. Dans les grandes lignes, les versets 4 à 14 nous présentent les chérubins. Les versets 15 à 21, les roues. Les versets 22 à 25, l'étendue et ce qui était au-dessous d'elle. Les versets 26 à 27, ce qui était au-dessus de l'étendue. Le trône et l'aspect d'un homme dessus en haut. L'esprit animait le tout. Les roues ne pouvaient se mouvoir que conduites par l'esprit de l'animal. Celui qui était assis sur le trône dirigeait l'ensemble. Autrement dit, sur la terre, on voit les roues. Ce gouvernement de Dieu si souvent étrange, incompréhensible, mais tout est conduit d'en haut. Ce qui arrivait à Israël et au monde du temps d'Ézéchiel et du nôtre n'était pas l'effet de circonstances ou des plans de Nebuchadnezzar, mais tout dépendait de la volonté et du propos de celui qui, assis sur le trône, jugeait en justice. Telle était la grande leçon que le jeune prophète devait apprendre avant de s'engager dans le ministère. Les chérubins, gardiens et défenseurs de la sainteté de Dieu, exécuteurs de son jugement, les chérubins, chapitre 10, verset 20, apparaissent pour la première fois à l'entrée d'Éden lorsque l'homme en fut chassé, Genèse 3, verset 24. Ils maniaient la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Sur l'arche, deux chérubins étendaient leurs ailes, leur face tournée vers le propitiatoire. Que voyait-il sur ce couvercle de l'arche? Le sang que le souverain sacrificateur y avait placé le jour des propitiations. Ainsi le jugement de Dieu qui était déjà tombé sur une victime pure et sans tache ne s'exécuterait pas de nouveau par le moyen des chérubins sur le peuple coupable. Sur le voile qui faisait séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, des chérubins étaient brodés, soulignant que l'accès du sanctuaire restait fermé. Il n'y en avait par contre aucun sur le rideau d'entrée du parvis. La porte large en était ouverte à tout Israélite qui s'approchait de l'autel des reins avec un sacrifice. Dans le temple de Salomon se dressaient deux chérubins. 1 Roi 6, versets 23 à 28, 2 Chroniques 3, verset 13. Leur face tournée vers l'entrée de la maison, comme pour accueillir dans le royaume de paix et de justice ceux qui voulaient s'approcher. En Apocalypse 4 et 5, nous les retrouvons enfin sous la forme des quatre animaux entourant le trône. Leurs différentes faces, lion, bœuf, homme, aigle, voir Apocalypse 4, verset 7, nous parlent des divers aspects du jugement de Dieu. Autre point caractéristique, ils étaient pleins d'yeux. Chapitre 10, verset 12. Le gouvernement de Dieu n'est pas aveugle. Il prend connaissance de tout et discerne tout. Telle est sa parole. Hébreux 4, verset 12. Tel est le Seigneur lui-même au premier chapitre de l'Apocalypse, les yeux brillants comme une flamme de feu. Versets 15 à 21, les roues. Elles constituent la partie inférieure du chariot, celle qui se meut sur la terre. Elles aussi sont pleines d'yeux. Verset 18. Rien dans le gouvernement de Dieu n'arrive au hasard. Tout était animé par l'esprit de l'animal qui était dans les roues. Verset 20. Mu lui-même par l'esprit. Verset 12. Versets 22 à 28. L'étendue et le trône. Au-dessus des têtes et des ailes des animaux, il y avait une étendue comme l'apparence d'un cristal séparant en quelque sorte le chariot sur la terre du trône dans le ciel. Les visions d'Ézéchiel et de Jean dans l'Apocalypse se recouvrent dans une mesure quant aux quatre animaux, mais combien elles diffèrent quant au trône et à celui qui était assis dessus. Ézéchiel ne voit que la ressemblance d'un trône et l'aspect d'un homme dessus, comme l'aspect du feu et une splendeur tout autour. La gloire de Dieu n'était pas encore révélée. Dans Exode 24, verset 10, lorsque les anciens montèrent au Sinaï avec Moïse, ils virent le Dieu d'Israël, c'est-à-dire seulement sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent et comme le ciel même en pureté. Notre prophète n'en voit pas beaucoup plus, quoiqu'il discerne l'aspect d'un homme sur le trône. Combien plus merveilleuse est la vision de Jean. Au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens, un agneau se tenait là comme immolé. Entre la vision d'Ézéchiel et celle de l'apôtre, Dieu a été manifesté en chair. L'agneau de Dieu a été vu sur les bords du Jourdain. À la croix, il a ôté le péché du monde. Le voile a été déchiré et la lumière de la gloire de Dieu a resplendi dans la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 5. Les rachetés sous la forme des anciens sont entrés dans la gloire. Et là, ils adorent, ils chantent le cantique nouveau. Sans agneau, pas d'anciens. Sans les anciens, pas de cantique, car seuls les rachetés chantent. Pourtant, la vision d'Ézéchiel ne se termine pas sur le seul aspect du feu et de la splendeur de la gloire. Il voit encore l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Voir Apocalypse 4, verset 3. Cet arc-en-ciel apparut à l'issue du déluge comme signe que Dieu ne détruirait plus la terre par les eaux. Preuve évidente de la grâce qui se déploierait si magnifiquement quand l'accomplissement des temps serait venu. Que pouvait faire le prophète devant une telle révélation, sinon tomber sur sa face comme tant d'autres l'ont fait? Moïse ou Pierre, Jean dans l'Apocalypse, Saul de Tarse au chemin de Damas. Chapitre 2. L'entendre. Avant d'être envoyé, il fallait écouter. Je parlerai avec toi. Impossible d'apporter à d'autres les paroles du Seigneur sans l'avoir entendu soi-même. Écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle. Ceux auxquels Ézéchiel s'adressera souvent ne l'écouteront pas. Mais soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien, il devra délivrer son message. Le semeur sort pour semer. Il sait que des grains tomberont dans la rocaille, dans les épines ou le long du chemin, et ne porteront pas de fruits. Mais il sème quand même. Ne pas se laisser décourager. Si partie des traités distribués sont déchirés ou jetés, ou si, parmi ceux pour lesquels on s'est dépensé, quelques-uns se détournent et refusent le Seigneur. Tu leur parleras avec mes paroles, non pas selon tes propres pensées ou ce qui te paraîtra bien, mais selon que tu l'auras d'abord entendu de moi. Chapitre 3. Être nourri. Écouter ne suffit pas, il faut manger. Jérémie le dit. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Jérémie 15, verset 16. Appelé à conduire le peuple à la conquête de Canaan, Josué devait méditer le livre de la loi jour et nuit. Ce que nous mangeons forme notre organisme. Spirituellement parlant, notre personnalité intérieure sera conforme à ce qui a nourri notre esprit et notre âme, d'où la grande importance de donner à la parole de Dieu la première place. Pas seulement lire trop vite un verset, ou écouter ce qu'ont dit les parents, les moniteurs, ou ce qui a été présenté à la réunion, mais pour soi-même se nourrir de la parole, la laisser former et corriger nos pensées, nos conceptions, notre manière de voir. Bien des serviteurs du Seigneur ont eu dans leur vie, en général dans leur jeunesse, une période où ils ont concentré toute leur lecture sur la parole de Dieu pendant 6 mois, 1 an, 3 ans peut-être. C'est la base d'un service solide. Il est doux de se nourrir de la parole. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Jérémie le dit. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Jean en fait l'expérience en Apocalypse 10, lorsqu'il mange le petit livre. Mais ensuite vient l'amertume en songeant aux jugements qui vont fondre sur ceux qui refusent cette parole. Reçois-les dans ton cœur, répète le Seigneur à Ézéchiel, soulignant qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être qualifié pour parler aux autres. Chapitre 3, versets 16 à 21. La sentinelle. Va. Il ne convenait pas qu'Ézéchiel parlât immédiatement de la vision. Pendant 7 jours, il s'assied stupéfait, chapitre 3, verset 15, méditant sur ce qu'il avait vu et entendu. Paul, à Damas, sera 3 jours aveugle, sans manger et sans boire. On ne se hâte pas de raconter les expériences profondes faites avec le Seigneur. Puis il fallait que le prophète se mît au niveau des fils de son peuple, là où ils étaient assis, pas au-dessus d'eux. « Je m'assis », verset 15. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel vient à lui pour dire cette fois-ci « Je t'ai établi sentinelle ». Sentinelle tenue d'avertir le méchant pour qu'il se détourne de sa voie, ou le juste qui s'est écarté. S'ils écoutent, que de joie. S'ils refusent, la responsabilité du serviteur est dégagée. Mais s'il n'a pas averti, le méchant mourra dans son iniquité, le juste dans son péché. Quelle responsabilité demeure alors sur la tête du serviteur? L'Esprit entra en moi. Au chapitre 2, verset 2 et au chapitre 3, verset 24, la même expression est répétée. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était donné que par intermittence. Il n'habitait pas dans le croyant comme aujourd'hui. Toutefois, sans l'Esprit de Dieu, on ne pouvait ni écouter, chapitre 2, ni parler, chapitre 3. Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dira l'Éternel à Zorobabel, Zacharie 4, verset 6. Seul l'Esprit de Dieu peut appliquer la parole à nos consciences et à nos cœurs. Et seul il donnera la puissance à la présentation de cette parole, que ce soit dans un entretien privé, avec des enfants, ou dans l'assemblée. À nous de veiller à ne pas obstruer le canal qui doit amener l'eau vive à ceux qui ont soif. Si nous nous sommes vraiment jugés devant Dieu et avons confessé au Seigneur nos fautes, l'Esprit sera libre pour agir, conduire dans la vérité et rendre témoignage. N'oublions jamais l'affirmation du Seigneur Jésus : séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5.